Chansons d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Le Brexit se ferait-il déjà sentir dans les universités alors qu'il n'est même pas encore effectif pour le Royaume-Uni? Les médias britanniques ont d'ores et déjà baptisé de Brexodus la fuite des cerveaux des têtes pensantes et les universités s'inquiètent. Elles accueillent actuellement 127 000 étudiants européens, emploient 46 000 ressortissants de l'Union européenne. Sauf que le nombre de départs est en très nette hausse par rapport à 2016. Marie Billon.
Dans les couloirs de l'université Queen Mary de Londres, on entend des discussions dans toutes les langues. 35% des 21 000 étudiants sont étrangers, dont environ 1500 Européens. Le campus se situe à l'est, à Mile End, l'un des quartiers les plus multiethniques de la capitale. Mais l'emplacement ne fait pas tout. L'établissement a un recruteur spécial pour les étrangers, Lee Wildman.
Nous avons actuellement un nombre record d'étudiants européens. Nous en sommes satisfaits. Alors, c'est vrai que nous avons constaté une baisse d'environ 10% du nombre d'inscriptions en premier cycle en 2017, mais c'est par rapport à notre année record de 2016. Et c'est compensé par une hausse de 16% au second cycle.
Les étudiants européens seraient-ils moins prompts à entamer de longues études au Royaume-Uni et plus enclins à envisager un cursus d'un an, un master qui, pour beaucoup, conclura leurs études? C'est possible car le Service national des admissions UCAS a révélé que le nombre de nouveaux inscrits européens en premier cycle avait baissé de 7% pour l'année 2017-2018.
Il est possible que certains étudient les options qui leur sont offertes ailleurs en Europe. On ne peut pas savoir si le Brexit en est la cause. Mais nous sommes déjà en train de réévaluer nos options. Si nous perdons des étudiants européens, nous devons voir où nous pouvons compenser, recruter plus de non-européens ou de Britanniques. Nous développons d'ailleurs des cursus sur le continent, notamment des licences à Paris. Nous réfléchissons aussi aux moyens de retenir les étudiants européens qui ne se sentent plus les bienvenus au Royaume-Uni.
C'est effectivement un sentiment tenace que beaucoup de jeunes gens comme Caterina Cortese ressentent depuis le référendum de juin 2016. Cela fait 4 ans qu'elle arpente les couloirs de la Queen Mary University. Cette année, elle fait un master de sciences politiques. Nous lui avons parlé depuis sa ville natale de Bologne, en Italie, où elle était en congé.
Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'après le Brexit, les Européens soient considérés comme des étrangers lambda. Ça signifierait deux choses, que nos frais d'université vont exploser et que nous ne pourrions plus avoir de prêts de la part du gouvernement britannique. Et si je veux faire un doctorat, le financement est crucial.
L'incertitude n'est bonne ni pour les entreprises, ni pour les jeunes gens qui démarrent dans la vie. Même si beaucoup d'universités ont promis, si le choix leur est laissé, qu'elles n'aligneront pas les frais des Européens sur ceux des internationaux, Caterina a déjà vu 3 de ses amis quitter le Royaume-Uni l'an dernier pour entamer un master dans un autre pays de l'UE.
Il y en a un qui est allé au Danemark, un autre en Hollande et la troisième est retournée en Italie. Le Brexit a beaucoup joué dans leur décision. Je pense qu'ils seraient restés ici sans ça, mais ils ne supportaient plus cette incertitude. Personnellement, si je parlais une autre langue que l'anglais, je serais partie aussi.
Nous sommes ici dans un autre établissement, la Westminster University, sur son campus du centre de Londres, tout près de Piccadilly Circus. C'est dans ce bâtiment du 19e siècle, aux colonnes et aux escaliers de marbre, que mi-janvier était révélé un rapport « Coûts et profits pour l'économie nationale des étudiants non britanniques ». Gavin Conlon est partenaire à London Economics, l'un des contributeurs à ce document.
Pour l'économie britannique, le bénéfice se monte à 22,6 milliards de livres contre 2,3 milliards de coûts. Le bénéfice net pour 2015-2016 est donc de 20,3 milliards de livres. Plus précisément, c'est 4 milliards nets pour les ressortissants européens et 16,3 milliards pour les non-européens. La principale raison de cette différence, ce sont les frais d'inscription. Mais il faut savoir que les Européens ont plus tendance à venir étudier avec des personnes à leur charge, enfants ou adultes, et donc cela a un coût.
Le gouvernement pourrait donc voir un intérêt très clair à augmenter les frais d'université pour les Européens aussi. Mais ce serait une fausse bonne idée, selon Nick Hillman, directeur du Centre de réflexion spécialisé dans l'éducation supérieure EPI, lui aussi à la présentation.
Selon nos calculs, après le Brexit, 57% des étudiants européens pourraient décider de ne plus venir. Même si ceux qui viennent paient plus, le pays n'y trouverait pas son compte. D'autre part, il y a beaucoup de cours qui ne seraient plus enseigner chez nous. Si nous avons moins d'étudiants internationaux et notamment européens, ce ne serait plus viable économiquement. Et dans ces conditions, il y aurait moins de postes de maîtres de conférences et de professeurs.
Les amphithéâtres britanniques pourraient-ils se vider de leurs étudiants et de leurs enseignants ? La tendance est déjà là, selon une étude du journal The Independent. 2300 universitaires de l'UE auraient démissionné en 2017. C'est 19% de plus que l'année précédente. Un chiffre qui ne surprend pas Nick Hillman, mais qui laisse augurer du pire.
Le Brexit n'a même pas encore eu lieu. Dans certains établissements, jusqu'à un quart des employés ne sont pas britanniques. Ils proviennent surtout des pays européens. Ce qui inquiète le plus les universitaires, c'est de savoir si leur succès académique sera reconnu dans leur pays d'origine et si le Royaume-Uni décide de s'éloigner du système éducatif européen.
Lorsque Theresa May, la première ministre, a promis en fin d'année qu'il serait aisé pour les ressortissants de l'UE présents dans le pays depuis plus de 5 ans de rester au Royaume-Uni, elle a soulagé certaines inquiétudes. Mais tant que le Brexit n'est pas entièrement négocié, a priori donc d'ici fin 2018, les incertitudes demeurent.
C'est ce qu'on appelle un superbe coup marketing. La célèbre marque aux trois bandes, Adidas, s'est associée à la Société des Transports Publics Berlinois pour sortir une paire de baskets avec titre de transport intégré. Pour prendre le métro, il suffit donc d'enfiler ses nouvelles chaussures. Et grâce à une édition limitée à 500 exemplaires, le succès est retentissant. Julien Méchaussi nous appelle de Berlin.
Pile à l'heure pour le lancement de la Fashion Week, la semaine des défilés de mode à Berlin, Adidas a lancé sa nouvelle chaussure. Avec une vente dans seulement deux magasins, la marque aux trois bandes et la BVG, la Société des Transports Publics Berlinois, n'aurait pu espérer meilleur coup marketing. Les images de clients qui campent toute la nuit dans le froid pour faire partie des heureux élus ont fait le tour des télévisions. Si le prix peut paraître exorbitant, 180 €, il devient plus acceptable grâce au titre de transport, valable un an et intégré à la languette, un ticket vendu normalement plus de 700 €. Mais plus qu'un investissement rentable, c'est surtout le potentiel de pièces de collection qui a attiré les acheteurs. Quelques jours après le lancement, des paires de chaussures étaient mises en vente sur Internet pour la somme impressionnante de 8 000 €. Des baskets déjà cultes et un nouveau coup médiatique réalisé par la BVG. Il y a quelques semaines, c'était le célèbre groupe irlandais U2 qui donnait un concert surprise dans une station de la ligne 2 du métro berlinois, une ligne appelée U2. Fort de plus de 250 000 abonnés, le compte Twitter de la BVG est également connu pour ses tweets humoristiques et pleins d'ironie. Une communication qui a renforcé la popularité de la BVG et permet de faire oublier les retards et les lignes interrompues à cause de travaux. Et cette collaboration avec Adidas ne restera pas la seule surprise de la BVG dans les prochains mois. La société de transport qui fête cette année ses 90 ans a déjà annoncé de nouvelles actions spectaculaires.
Direction la Belgique maintenant, où la politique migratoire de Théo Franken, le secrétaire d'État à la migration, fait encore la une des journaux là-bas, et notamment son idée d'autoriser les perquisitions pour pouvoir expulser les migrants sans titre de séjour. Alors en ligne de Bruxelles, on retrouve Johanna Hochstein. Bonjour Johanna.
Bonjour Catherine.
De quoi s'agit-il exactement ?
Alors chaque année, ce sont quelques 2000 visites à domicile qui sont organisées par la police pour arrêter des migrants sans titre de séjour légal, les interpeller et les renvoyer dans leur pays. Mais dans 30% des cas, les forces de l'ordre n'ont pas accès au domicile du sans-papier ou de celui qui l'héberge, souvent tout simplement parce qu'ils refusent d'ouvrir la porte. Le secrétaire d'État belge à la migration veut donc autoriser les perquisitions avec le feu vert d'un juge d'instruction du domicile des personnes susceptibles d'héberger des migrants. Si le projet de loi qui est à l'étude au Parlement en ce moment est finalement adopté, il sera obligatoire d'ouvrir aux officiers de police venus arrêter un étranger en séjour irrégulier. Certains craignent ici que le délit de solidarité soit pénalisé. En effet, les citoyens belges sont de plus en plus nombreux à accueillir chez eux, le temps d'une nuit ou plus, des migrants qui ne trouvent pas de place dans les structures existantes.
Et ce projet de loi suscite quel genre de réaction dans la société belge ?
Alors, un très grand émoi, des ONG et des citoyens se mobilisent quasiment chaque jour pour dire tout le mal qu'ils pensent de ces visites à domicile en particulier et de la politique mise en œuvre par Théo Franken en général. Une chaîne humaine qui a rassemblé quelques 3000 personnes a été organisée pour empêcher la police d'interpeller des migrants. Des magistrats et des avocats ont pris la plume pour rappeler le droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité l'activité du domicile, deux principes inscrits dans la Constitution belge et dans la Convention européenne des droits de l'homme. Cette semaine, ce sont des chercheurs et des universitaires habitués à une certaine réserve qui se sont fendus d'une carte blanche dans le journal Le Soir pour dénoncer les dérives du gouvernement belge en matière migratoire, ce qui fait dire à l'éditorialiste du quotidien « On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, qu'on n'avait rien vu et qu'on n'avait pas été prévenu » et de préciser que les appels lancés proviennent de flamands, de francophones, de gens de gauche et de personnalités de droite issues de milieux laïcs comme catholiques.
Alors cette mobilisation d'un grand pan de la société ne concerne pas seulement le projet de loi à l'étude en ce moment au Parlement belge sur les perquisitions.
Effectivement, il y a un rejet plus global de la politique mise en œuvre par le nationaliste flamand Theo Franken depuis son arrivée au gouvernement. À la fin de l'année dernière, le secrétaire d'État à l'asile a été très critiqué pour avoir organisé l'expulsion de migrants soudanais, des migrants qui auraient été arrêtés et torturés à leur arrivée dans le pays. Or, avant que ces expulsions aient lieu, une délégation du gouvernement soudanais avait été invitée en Belgique pour identifier les ressortissants placés en centre de rétention et faciliter ainsi leur expulsion, une manière de procéder qui avait déclenché un véritable scandale dans le royaume. Ajoutez à cela les accusations de mauvais traitement à Khartoum et vous obtenez une vague d'indignation. Suite à la polémique, le Premier ministre belge Charles Michel a été obligé d'exiger l'arrêt des renvois vers Khartoum, le temps qu'une enquête indépendante dit ce qui s'est réellement passé. Au niveau des réactions, on a noté celle des cinéastes belges, les frères Dardenne, qui demandaient la démission de Theo Franken.
Et pourquoi le gouvernement belge ne se débarrasse-t-il pas tout simplement d'un secrétaire d'État si encombrant ?
Parce que si le Premier ministre belge demandait la démission de Theo Franken, cela signifierait très certainement la chute du gouvernement Michel. En effet, la NVA, l'Alliance néo-flamande, fait partie de la coalition gouvernementale qui dirige la Belgique depuis 2014. Et Bart De Wever, le patron de la NVA, a menacé de provoquer une crise politique si Theo Franken continuait d'être la cible de toutes les critiques. Il est donc peu probable que Theo Franken quitte le gouvernement, n'en déplaise à une grande partie de la société belge.
Eh bien, on risque donc d'en parler encore prochainement dans les journaux. Johanna Hochstein, notre correspondante à Bruxelles. Merci Johanna.
À bientôt Catherine.
Tourisme en pleine expansion, patrimoine historique et culturel restauré. Pour son centenaire d'existence, la Lituanie tente de se faire connaître de ses voisins européens. Et l'un des moyens d'attirer les touristes, eh bien, c'est la gastronomie. La cuisine balte connaît un véritable renouveau. Plusieurs restaurants lituaniens ont été sélectionnés dans le guide blanc, le fameux guide scandinave. Les critiques louent l'inventivité de la cuisine balte qui se tourne de plus en plus vers les produits locaux. Une aubaine justement pour les petits producteurs et c'est le reportage de Marielle Vitureau.
Une betterave en guise d'emblème, c'est ainsi que l'on peut repérer l'un des restaurants les plus en vue de Vilnius. Cette racine au goût sucré est devenue le symbole par excellence du renouveau de la cuisine lituanienne. L'entrée est discrète et ce sont les cuisiniers qui accueillent les convives. Ouvert en 2014, Sweet Root est l'un des pionniers de la nouvelle cuisine lituanienne. Dans les assiettes en cette saison, sept plats proposés par Justinas Misius et qui donnent un goût à l'hiver.
En entrée, nous avons une salade qui met le choix à l'honneur. Le brocoli et le chou-fleur sont mélangés à la poire avec une touche d'œuf dur.
Sigitas Žemaitis, le propriétaire, a décidé de se fier à ses papilles pour retrouver son identité lituanienne. Les groseilles à maquereau ou les pousses de houblon agrémentent désormais sa cuisine. Ouvert du mercredi au samedi, le restaurant sert chaque soir une vingtaine de couverts. Avec Agnès, sa compagne, il a démarché les producteurs locaux pour trouver les bons produits, mais il récolte aussi lui-même les ingrédients qui serviront à l'élaboration des plats.
Nous avons nos serres et notre propre potager. Et l'été, la plupart des produits utilisés dans notre cuisine viennent de là. Mais on cueille aussi les plantes et les champignons dans les bois et les prairies alentours. Nous séchons ou nous fermentons ensuite notre récolte pour l'utiliser plus tard.
À Kaunas, la deuxième ville du pays, plus de 300 producteurs se réunissent pour un immense marché fermier tous les samedis. Ils bénéficient eux aussi de cette nouvelle tendance. La saison du lait va bientôt commencer pour les 400 brebis et les 200 chèvres de Birute Prakapavichene. Chaque semaine, elle vient livrer sa production à Vilnius.
En 2017, nous avons fabriqué 10 tonnes de fromage à pâte cuite. Chaque année, nos ventes augmentent. Les gens apprennent à apprécier nos fromages à l'occasion des foires et des marchés. Je remarque aussi que les personnes qui cherchent des produits du terroir sont de plus en plus nombreuses, comme les personnes allergiques au lait de vache. Nous aurions vraiment les capacités de produire encore plus, mais consommer des fromages comme les nôtres ne rentre que lentement dans les mœurs.
La gastronomie devient de plus en plus la carte de visite de la Lituanie. Sigitas Žemaitis se souvient que récemment, un couple de Finlandais a fait le trajet en moto depuis Helsinki pour venir manger dans son restaurant. Et ce ne sont pas les seuls à s'y rendre spécialement.
L'Agence nationale du tourisme nous envoie régulièrement ses invités. Le ministère des Affaires étrangères organise aussi des déjeuners ici pour ses hôtes. On fait de plus en plus découvrir la Lituanie à travers sa gastronomie contemporaine, sa gastronomie de qualité.
Chaque année, Vilnius attire plus d'un million de visiteurs et les Halles, le plus vieux marché de la ville, fait désormais partie des itinéraires proposés aux touristes. Une découverte qui séduit aussi les Lituaniens, comme le confirme la guide Orinta Labutite.
La visite passe toujours par les stands des fromages traditionnels, du pain de seigle, des légumes et des fruits fermentés. Ce sont des produits qui ont toujours été vendus sur le marché. Les Lituaniens les redécouvrent car un temps ils ont été attirés par tout ce qui était étranger. Mais aujourd'hui, c'est un moyen de se sentir européen.
Découvrir par le goût et l'odorat, privilégier les expériences sensorielles, c'est le chemin pris par la Lituanie pour se faire connaître. À l'occasion de son centenaire, différents chefs lituaniens ont élaboré un menu anniversaire à base de betteraves, de seigle et de fromage blanc à déguster dans les restaurants de la ville.
Voilà un petit paradis naturel du nom de Bolu, à moins de 4 heures de route d'Istanbul. On y va pour ses sources thermales, ses pistes de ski, ses lacs ou simplement pour prendre une bouffée d'air pur. C'est ce que nous fait découvrir Anne Andlauer.
La nouvelle n'a pas fait la une des journaux turcs en ce début d'année, mais elle a procuré un immense soulagement aux amoureux de Bolu. Sous la pression d'écologistes, la mairie a dû annuler un appel d'offres qui aurait permis la construction d'un tramway aérien et de résidences hôtelières au milieu du parc de Gölcük, célèbre pour son lac blotti au milieu d'une forêt. Si l'on oublie le centre urbanisé de la province et l'autoroute qui la traverse, Bolu est un grand point vert sur la carte satellite du nord de la Turquie à l'est d'Istanbul, au sud de la mer Noire. C'est un endroit où le mot « göl », c'est-à-dire « lac » en turc, apparaît partout sur les plans, si bien qu'on a du mal à tous les compter. Il y a les plus connus, Abant, Gölcük, Yedigöller. Ce dernier désignant en fait un ensemble de 7 petits lacs en bordure d'un parc national de plus de 500 hectares. Les forêts de Bolu sont connues pour compter parmi les plus denses de Turquie, avec leurs pins, chênes, hêtres ou peupliers centenaires, et leur faune abondante, cerfs, ours, loups, renards, écureuils et d'innombrables espèces d'oiseaux. On s'y promène en toute saison, on y campe, on y pêche, on y skie l'hiver dans la station de Kartalkaya, et on vient s'y ressourcer au sens propre, puisque Bolu renferme aussi une trentaine de sources thermales, dont plusieurs sont reconnues pour leurs bienfaits thérapeutiques. Les Turcs des grandes villes, en quête d'air pur et de verdure, et les touristes étrangers, notamment des pays du Golfe, se sont passés le mot et affluent vers Bolu et ses villages traditionnels. Certains comme Mudurnu, Tashkesti ou Göynük étaient autrefois situés sur la route de la soie et ont conservé leurs demeures et leurs thermes ottomans. La région est aussi célèbre pour ses marchés saisonniers, les panayeurs, où l'on vient faire ses courses, manger sur le pouce et faire un tour de manège dans la chaleur des mois d'été.
Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain à la même heure. À la réalisation, il y avait Ludivine Amado. Vous pouvez évidemment nous suivre sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, le journal.